Bonjour à tous et merci de répondre à cette invitation d'Internews et Vox Congo de ce café presse ou forum d'expression. Alors le rendez-vous d'aujourd'hui est axé sur le rôle des journalistes dans la couverture des sujets médiatiques liés aux enjeux sécuritaires en République démocratique du Congo. Le but de cette rencontre, estimée confrères et consoeurs, c'est de nous permettre de contribuer à la consolidation de la démocratie et de l'état des droits ici au Congo démocratique qui, visiblement, vous pouvez le remarquer, s'affiche entravée par certaines pesanteurs et certains facteurs. Alors les échanges ou débats que nous allons lancer d'un moment à l'autre vont non seulement nous permettre de diagnostiquer quelques principales contraintes auxquelles sont confrontés les journalistes pendant la couverture médiatique des sujets liés aux enjeux sécuritaires ou des sujets qui peuvent mettre leur vie en péril. Ça va aussi déposer une base à l'élaboration de voies de solutions pour un bel avenir de notre métier et beaucoup plus pour la consolidation de la paix ici au Congo démocratique. Alors, comme vous pouvez le lire sur le programme que vous avez sous vos mains, nous avons 4 intervenants. Francine Mokoko, elle est journaliste correspondante depuis près d'une trentaine d'années à TV5 Monde Afrique. Son courage et son professionnalisme ont notamment bâti sa réputation, non seulement ici au pays, mais beaucoup plus en Occident et partout ailleurs. Nous avons aussi Eric Iziami, qui est journaliste au sein de la télévision Antenna. Antenna qui appartient à la première génération des chaînes privées commerciales ici en République démocratique du Congo. Alors Eric Iziami couvre beaucoup plus des sujets liés à la politique. Nous avons également le président de la structure GED, journaliste en danger, Chivis Chivoali. Chivis qui mène depuis une vingtaine d'années un combat loyal pour le respect des droits et intérêts des journalistes ici en République démocratique du Congo. En face de vous, vous avez également le président de l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, M. Kasonga Chilunde. L'UNPC, vous le savez, qui est un cadre des fédérations, des organisations des médias et un cadre des organisations des journalistes professionnels qui militent beaucoup plus pour la liberté d'expression. Alors, avant de donner la parole au président de GED, je vais énumérer de façon ramassée, lapidaire, mais beaucoup plus de façon expressive, les journalistes qui ont été tués dans le cadre d'exercice de leur métier. Crispin Kandolo de Bukavu, Akite Kisembo du Sud Kivu, Franck Guiquet de Kinshasa, Bapua Mwamba de Kinshasa, Serge Maéché du Sud Kivu, Didas Namujimbo du Sud Kivu, Kambale Moussonia du Nord Kivu, Guilain Chanjabo de Litouri, Robert Chamouani du Nord Kivu, Marcel Oubala du Kasaï Central, Patrick Kikuku, Bruno Coco Charambiza et Patient Chebea Montigomo exerçant dans l'Est de la République du Congo. Alors, chers confrères et consoeurs, je vous prie de vous lever pour observer quelques instants de silence en hommage à ces journalistes estimés confrères connus et anonymes qui ont vu leur vie s'arrêter brusquement parce qu'ils ont tenu à démêler le champ des gardes de la démocratie. Merci. Alors, j'invite à présent le président de GED à prendre la parole. Il va nous faire un état des lieux sur la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Président, vous avez la parole.
Bien, merci beaucoup. Notre travail quotidien consiste à faire le monitoring de tout ce que nous enregistrons comme violations et attaques au droit pour les journalistes de pouvoir travailler en toute liberté, en toute indépendance, en toute sécurité. Donc, l'année dernière, nous avions terminé l'année avec au moins 87 cas. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse au mois de mai, le 3 mai, nous avions déjà comptabilisé au moins 49 cas, ce qui montre une tendance à la hausse des attaques contre la liberté de la presse. Donc, si je dois définir, dire un mot sur cette situation de la liberté de la presse, je vais dire qu'elle est en recul en République démocratique du Congo et elle continue à être inquiétante pour les professionnels des médias.
À présent, je vais donner la parole à Francine Mokoko, journaliste correspondante, ça se permet de se dire comme ça, des TV5 Monde Afrique, ici en République démocratique du Congo. Elle a été victime d'un incident, vous vous en souvenez, récemment, le 17 mai dernier, lorsqu'il y a eu évasion spectaculaire et massive des détenus à la prison centrale de Makala. Francine, vous avez la parole.
Comme vient de dire Michou Kérékéré, J'ai 26 ans de métier. Dans les 26 ans, il y a 19 ans de métier sur le plan international, radio comme télévision. J'ai eu l'avantage ou le désavantage de travailler aussi bien sous le parti État et sous l'actuel régime. Mais les déboires, je ne les ai pas connus seulement avec l'avènement de Kabila. Déjà à l'époque de Mobutu, j'ai connu une histoire. J'ai connu une histoire avec l'armée, avec la police. Cela ne dépendait pas de moi directement, mais c'était une situation dans le pays. C'était quoi? Le deuxième pillage, c'était en 93. Le deuxième pillage, ce jour-là, j'étais programmée pour présenter le journal télévisé. Et vers 14h, ça commençait à crépiter au niveau du marché central parce que les militaires qui venaient d'être payés avec de nouveaux billets, de nouveaux Zaïre, ces billets étaient en fait rejetés, refusés au marché. Et les militaires, fâchés, ont commencé à manifester. Et nous, moi j'étais à la rédaction, sans savoir ce qui se passait. Je devais sortir pour aller au salon de coiffure et revenir pour le journal télévisé. Donc en sortant, je suis allée au salon. Mais après avoir été coiffée, donc c'était impossible de retourner à la rédaction parce que toutes les rues étaient envahies par des militaires. Donc j'ai dû marcher vers où se trouve l'UFASIC, jusqu'à la RTNC. Quand je suis entrée à la RTNC, je ne suis plus ressortie 3 jours après. Mais après le départ de Mobutu, à l'avènement de l'AFDEL, ils sont arrivés le 17 mai, au mois de juillet. Un matin, je me rends au service. Je trouve devant l'entrée du bâtiment de la télévision nationale le directeur des informations qui me dit que je ne peux pas entrer je ne peux pas prendre part au conseil de rédaction, donc il faudrait que j'attende que le PDG me donne les raisons. Et ces raisons, je les ai attendues 3 mois. 3 mois après, on me reconvoque pour me dire que non, en fait, comme je suis issu de la province de l'Équateur, donc je suis espion. Je torpille l'action de l'AFDEL. J'étais en contact avec Mobutu pour lui donner des informations sur Kabila, tout ça. Donc j'ai dû passer 9 mois de chômage jusqu'au jour où on m'a rappelé pour me dire que voilà, tu peux regagner le service. Je leur ai dit non. Si je suis parti à l'école, je finirai par trouver un emploi. C'est à cet instant, c'est à ce moment-là que Africa de Moi 1 va me contacter. Quand ils ont appris que je suis partie, ils m'ont contacté. J'ai commencé à travailler pour Africa numéro 1. Et quand j'ai commencé à travailler pour Africa numéro 1, un jour, je fais une lettre à la police, à l'inspection générale de la police, c'est le général Kifoua qui était là, pour demander une interview. Je fais une lettre et j'annexe une copie de questions, un questionnaire, pour demander une interview, et j'attends la réponse qui n'arrive pas. Et puis un jour, je vois un monsieur qui connaissait mon mari, qui est venu me voir pour lui dire, bon, il faut dire à madame de ne pas paniquer, si elle doit venir demain, ça va bien se passer, je vais arranger ça. Et puis le lendemain, c'était un samedi, c'était un vendredi, je me rends à la police, je pensais que c'était pour recevoir en fait la réponse à la lettre que j'avais introduite. Quand j'arrive là-bas, je commence à passer de bureau à bureau. C'était quoi? On me verbalisait. Alors, quand j'ai vu que ça commençait à dégénérer, j'ai fait une note à mon mari pour lui dire, voilà, j'ai l'impression que on va me garder ici. Si on me garde, appelez la rédaction. Il faut appeler Africa numéro 1, appeler Kibambi, qui était correspondant de RFI à l'époque. Dites-lui que voilà, j'ai un problème avec la police. Je lui explique, j'avais écrit une lettre, j'ai un excellent questionnaire et on me retient pour ça. Et j'ai eu la vie sauve parce que le lendemain, lorsque vers 23h au minuit, on a appelé mon mari pour lui demander si j'étais relâchée, il a dit non. Alors RFI et Africa numéro 1 ont commencé à faire du bruit à partir de 4h du matin. Et Laurent Désiré Kabila a dû entendre cela et il s'est renseigné. Et on m'a libéré vers midi. La violence ne vient pas seulement des hommes en uniforme, mais ça peut venir aussi des manifestants. Par exemple, les événements du 19, 20, 21, 2015, nous étions en train de couvrir ce qui se passait dans la ville lorsqu'il y a eu manifestation pour empêcher, je crois, la loi sur le référendum, quelque chose comme ça. de recensement. Nous sommes arrivés au niveau de Salongo Sud, Bimsum. Il y avait affrontement terrible entre la police et les manifestants. Heureusement pour nous, le général Rouse était là, donc je suis allée le voir pour lui demander la permission de filmer. Il nous a autorisé. Alors comme il nous a autorisé, donc l'armée, la police, pas de problème, on a fait le travail qu'on devait faire. Mais après, lui, il est parti. Après nous avoir autorisé, il est parti. Les affrontements étaient tellement intenses que la police a commencé à reculer. Et quand la police a reculé, il est parti, il nous a laissé avec des manifestants. Comment sortir de là? C'était un problème. Nous avons dû cacher nos matériels. On s'est caché dans une station service qui est là. Les manifestants en furie. Heureusement pour nous, un des manifestants a remarqué un magasin qui appartenait à un Chinois. Ils ont commencé à casser le magasin. Et quand le magasin a été cassé, les portes ouvertes, et tous les manifestants sont allés vers le magasin pour piller. C'est à ce moment-là que nous avons pu nous dégager. Mais quand ils ont remarqué que nous sommes partis, c'était des jets de pierre. Nous avons reçu des jets de pierre, nos voitures étaient complètement caillassées. À part ça, ce qui s'est passé à Makala, vous avez appris. Ce matin-là, vers 11h30, on arrive à la prison. Connaissant un peu le comportement des forces de l'ordre face à la caméra, j'ai demandé à notre caméraman de rester dans notre voiture. J'étais dans le véhicule. Je suis descendu avec Blaise Bassomboli, le journaliste qui m'accompagnait. Nous étions garés de l'autre côté de la prison. Nous sommes descendus pour aller voir les forces de l'ordre qui étaient là, la police qui était là, pour demander à avoir rencontré un responsable. Et on nous dit que le responsable n'était pas là. Nous avons demandé l'autorisation de faire des images de l'extérieur. On nous a refusé ça. Et nous sommes revenus dans notre véhicule. Alors, lorsque nous sommes venus dans notre véhicule, notre caméraman a pris la caméra. Il était à l'intérieur du véhicule pour faire quelques images des environs de la prison. Et pendant ce temps, moi, j'ai démarré la voiture. Au moment de m'engager, j'ai entendu un bruit des gens qui sont engouffrés dans la voiture. Donc, il y avait des militaires en tenue civile. Un homme en short, il était en blue jean short, en t-shirt et avec des babouches. Moi, j'ai cru que c'était un voleur. J'ai cru que c'était un malfrat qui voulait nous ravir la caméra, parce que lorsqu'il est entré dans la voiture, il s'est dirigé directement vers le caméraman et a saisi la caméra. Il voulait prendre la caméra et le caméraman, heureusement pour nous, était un peu plus fort que lui. Il a résisté. Et quand il a résisté, entre-temps, la voiture s'était lancée. Nous avons fait quelques mètres de parcours, la voiture ouverte et lui, à l'intérieur, en train de crier, parce que je crois qu'il paniquait, il pensait qu'on l'amenait quelque part. Finalement, on s'arrête. Lorsqu'on s'arrête, il voit deux pick-up de la police qui arrivaient. Il fait appel à eux. Ces deux pick-up, plein de policiers, je crois, il y avait 16. Il y avait 8, je crois. Si pas 8, 8, 10, 10. Ces policiers, lorsqu'ils sont arrivés, ils sont descendus sans nous demander quoi que ce soit. Soit sans demander qui vous êtes, qu'est-ce qui se passe. Ils se sont jetés sur nous. Et ils ont commencé à tabasser les deux garçons qui étaient avec nous. Ils nous sortent du véhicule, ils m'ont mis dans la Jeep devant, et les garçons ont été gravement molestés. On les a mis derrière, allongés sur la pick-up, et les policiers sont remontés sur eux. C'est à ce moment-là que, quand ils ont commencé à partir, qu'ils ont uriné sur eux. Ils ont senti qu'il y avait un liquide qui tombait sur eux. Lorsqu'ils ont regardé, ils ont vu un policier en train d'uriner sur eux. Une autre voiture, notre voiture est restée. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu nous prendre tout notre matériel de montage, donc tout le sac avec tout ce qu'il y a comme matériel de montage, les kits internet, les ordinateurs, tout ce que nous utilisons pour le montage, nos téléphones, iPhone et téléphones, tout ça, c'était parti. On nous amène à la LENI, c'était l'expire. Lorsqu'on arrive là-bas, je crois qu'ils avaient déjà appelé pour dire que nous amenons des espions. Lorsqu'ils arrivent, nous trouvons quelques responsables que je ne connais pas, je ne les ai pas identifiés jusqu'à aujourd'hui, ils étaient là devant en train d'attendre. Lorsqu'on nous amène, on nous voit descendre avec la caméra, parce qu'on a pu quand même sauver la caméra. Heureusement pour nous, le caméraman a été brave, ce garçon il a reçu un coup de crosse de fusil au niveau du front, et il était complètement gonflé parce qu'il ne voulait pas lâcher la caméra, et ça n'a pas été cassé, heureusement pour nous. Finalement, on m'a remis la caméra, c'est moi qui l'avais. Lorsqu'on nous voit descendre avec la caméra, on leur demande, mais c'est eux que vous amenez, des journalistes, mais ils ne sont pas dangereux. Alors ils étaient tout confus. Et le monsieur nous demande de partir. Je lui dis non, on ne peut pas partir comme ça. On ne peut pas partir. Un, nous n'avons pas notre véhicule. Nous avions un véhicule avec des matériels dedans. Nos véhicules, notre véhicule, on ne voit pas. Et voyez dans quel état on se trouve. On ne peut pas partir comme ça. Vous demandez de partir comme si de rien n'était. Finalement, le véhicule arrive. Il nous dit non, il faut partir, tout ça. Il commence à nous menacer. Si vous ne partez pas, il y aura ça, ceci, cela. Finalement, un s'approche de nous pour nous dire, voilà, vous savez, pour vos matériels, il faut aller voir le général Kanyama parce que ce sont ces gens qui étaient sur terrain. Ce sont ces gens-là qui ont pu voler dans votre véhicule. Sur le champ, nous sommes allés voir le général Kanyama. On nous a reçus là-bas, pas lui-même, mais quelqu'un qui nous a reçus. Il nous a dit non. Ce ne sont pas les éléments du général Kanyama qui étaient là, ce sont les éléments de la LENI, donc de la pire. Ceux qui avaient conduit votre véhicule, c'est eux qui sont responsables de tout ce qui était perdu. Et nous sommes retournés là-bas avec beaucoup de persévérance. Nous avons pu avoir un responsable qui nous a conduit jusqu'à voir le numéro 1, la LENI. Et nous commencions à faire le pied de grue tous les jours à là-bas pour avoir des nouvelles. Les personnes qui avaient commis les forfaits, quand ils se sont rendus compte de la bêtise qu'ils avaient commise, ils se sont enfuis. Finalement, le numéro 1, comme la presse en a beaucoup parlé, on a alerté les organisations, la presse, tout ça, et ça a commencé à faire du bruit à travers le monde. Finalement, il a ordonné qu'on arrête ces gens-là. On avait arrêté un d'eux. Et un jour, on a fait la confrontation avec ces types-là. On lui demande, mais pourquoi vous vous êtes attaqué aux journalistes? Est-ce que... Il y a un colonel qui était là qui lui dit, moi j'étais là ce jour-là, le matin, lorsque le général Kanyama est arrivé avec d'autres responsables de la police, ils ont dit aux policiers qui étaient en train de faire la sécurité ce jour-là. On vous a donné un téléphone pour que vous signaliez tout mouvement négatif ou tout mouvement suspect qui se passerait là-bas. Et le général Kanyama a insisté, il vous a dit, laissez les journalistes faire leur travail. Pourquoi vous vous êtes attaqué aux journalistes? Le monsieur répond, voilà, quand cette dame et ce monsieur-là sont descendus pour demander l'autorisation et qu'on ne leur a pas accordé, moi je les ai suivis et j'ai vu dans leur véhicule le caméraman qui était en train de faire des images. Alors on lui demande, mais c'est ça l'infraction, faire des images. Quand le général Kanyama vous dit, laissez le journaliste faire leur travail, faire les images. Et puis dans leur véhicule, tu as ouvert la porte, tu es entré, c'est une infraction. Tu as violé leur véhicule, tu as violé leur... Alors on en est là, le monsieur est en prison. À ce jour, il y a 4 qui sont déjà arrêtés. Bon, la justice est en train de faire son travail. Voilà un peu le récit que j'avais prévu de faire pour vous.
Merci beaucoup, Francine, pour ce témoignage poignant. Alors, sans transition, nous allons passer... à Eric Iziani, Eric qui est journaliste en plein air. Eric, vous avez la parole.
Et bonjour à tout le monde. Comme le sous-directeur est là, le journaliste rapporteur à la rédaction d'Antenna, je vous demande d'apporter pour moi un sujet. J'avais reçu un SMS d'un aîné de la presse. Alors l'aîné m'a fait un SMS comme pour me dire que non, il y avait une conférence de presse à couvrir le dimanche 15 mars 2015 au niveau de la Gombe. Et que le lieu de rencontre, c'était devant la BCDC, Banque Commerciale du Congo. Alors, j'ai fait confiance à mon aîné, avec lequel je partage plusieurs sujets, de la vie comme au niveau professionnel. Heureusement, la conférence qui avait été annoncée pour Gombe, on se dirigeait vers la partie est de la capitale. On fait Tchango, et on arrive, je vois les deux immeubles de Apocalypse vers l'entrée du quartier 1 Djili. Mais on prend le flanc gauche, donc on est dans Massina. Et on arrive sur une rue que je découvrais par ailleurs. La rue a un nom patent, rue UDPS numéro 10. Et devant la parcelle avait été dressé un podium. Le podium, pour moi, je suis un friand de la musique de mon pays, j'adore. Alors j'ai dit, bon, ça doit être une grande manifestation. Et lorsque j'ai vu le programme auprès des amis qui avaient là, je vois... entre autres invités, le ministre national, au niveau national, de l'environnement. À l'époque, c'était Lyota Njoli, que je connais aussi parce que je couvre le palais du peuple, et lui, on se connaît parce qu'il était député national avant d'être envoyé au niveau du gouvernement. Alors, quelque temps après, quand on rentre dans la salle,
je vois deux jeunes garçons à peu près de mon âge, mais qui avaient une coiffure pas acceptable ici à Kinshasa. Vous voyez les locks là, ça fait vraiment pas sérieux. Mais l'un était burkinabé, l'autre était sénégalais, et dans le fin fond, il y avait deux Congolais qui sont venus, l'un de Goma, Nord Kivu, et l'autre de Lubumbashi. Et puis mon aîné qui m'avait fait l'SMS comme modérateur. Et j'étais en confiance. On commence la conférence de presse. Les amis burkinabés, ils venaient de la structure que l'on appelle Bali Citoyen, et l'ami du Sénégal, lui, était de Yanama. Et puis l'un d'eux m'approche. Il me dit, mais yo, en lingala, yo, Urubahamabe, chef de l'État Kabila, na TV, au final, à Mokondi. Pendant qu'il me l'a dit, il m'a déjà saisi au niveau de la ceinture. Il dit, non, non, cher monsieur, tout ce que vous dites là n'est pas vrai. Moi, je suis journaliste, j'ai été invité ici. Et là, je ne suis qu'à l'étape de la collecte. Directement, il m'a asséné une gifle. Et puis, je sors quand même la carte. Et c'est faux, je pèse bien mes mots, c'est faux. Monsieur Mendy, par ailleurs, ministre de la Communication et Médias, avait raconté, pendant que moi je suis en tôle, que moi je n'avais pas ma carte avec moi. Non, je me balade avec ma carte, même lorsque je vais à une fête. Et j'ai compris la frustration. Et quand j'ai commencé maintenant un peu ailé, non. Mes chers amis, vous êtes là pour me connaître, non. Comment vous pouvez me laisser comme ça? Et le gars, il m'a fait pousser, et puis mes menaces, ils sont venus en grand nombre. Mais quand je sors maintenant avec eux, ils m'ont traîné en dehors de la parcelle, et je vois toute une flopée de jeeps et des gens armés jusqu'aux dents. Mais ils étaient en tenue civile. Et directement, ils m'ont, avec le deux Burkinabé, je ne sais pas si c'est le phénotype de nos amis ouest-africains, mais avec le Sénégalais, le Burkinabé et moi, nous trois, dans un pick-up, et puis on commençait à nous marcher. C'est des hommes très grands. Quand ils vous marchent, vous sentez vraiment que c'est... Alors, chemin faisant, ils m'ont mis la tête comme ça, donc je ne pouvais rien voir, parce que j'avais des mains ligotées et tout ça, on m'a enlevé la ceinture, on m'a pris tout, tout. Mais je regarde, je vois le label ProCrédit. Directement, j'ai pu repérer que c'était aux alentours de là où était Raga autrefois. Et on entrait dans une parcelle. Et la parcelle, donc, c'était l'UZBU, une banque là, qui est devenue aujourd'hui le siège de l'ANER. Et il commençait à pleuvoir. J'avais leur pisse dans mon corps et les deux amis aussi. On nous a jetés par terre. Et puis, un monsieur est venu avec le parapluie. Je vois descendre l'AG Kalev Mutombe, que je voyais à la télévision sans approcher. Ouais, bah, journaliste en haut. On nous pointe des doigts. Et puis, il rentre dans son bureau. Quelques minutes plus tard, on nous amène dans un couloir. On est trempé, j'étais habillé en jean, complet jean. Et j'étais pieds nus. Et puis bon, on était à trois. Et lui-même, Kalev, a demandé de nous interroger. Et le premier est entré, c'est le Burkinabé. On lui pose des questions et tout ça. Et puis il ressort. Je le vois être accompagné par trois militaires là. Et puis le deuxième, c'est les Sénégalais. Et puis moi, à la fin, on me pose la question, comment tu t'appelles? J'ai dit Eric Izami. Il dit non, non, non. Dis-moi ton nom en entier. J'ai dit Eric Izami Bouanzali. Mais tu es de quelle province? J'ai dit, mon défunt papa était de la Tchouapa, précisément de Befale, territoire de Befale, et ma maman est du Maïndombe, territoire de Mouchi. Alors, Yuzandegoya. Il y a Cardinal Monsen, il me dit non, dis-moi, qu'est-ce qui a été dit contre le président Kabila? J'ai dit, chef, s'il vous plaît, je vous dis la vérité, les amis là, africains n'ont pas cité nommément le président Kabila. Ils ont dit, nous sommes venus partager avec vous notre petite expérience, hein, pour que nous, jeunes, puissions prendre les choses en main, parce que nous avons l'avantage d'avoir... une propension à la diffusion de l'information, on peut facilement s'échanger et puis nous améliorer mutuellement pour avancer. Il me dit non, c'est faux, dis-moi exactement ce que ces gens-là ont dit contre le président Kabila. J'ai dit, mais chef, je me tue à vous expliquer, je ne peux pas inventer. Il me dit, toi tu penses que j'ai toujours le temps de t'écouter. Ce petit est têtu. Il dit, bonjour, vous non. Il n'a pas. On est dans une promiscuité inexpliquée. Et on commence un peu à se familiariser avec les détenus. Mais parmi les détenus, il y a un député national, Kiaviro, qui m'a reconnu. Ah, Eric, parce que lui, il nous a accordé des interviews, etc. Et puis, entre-temps, vous aviez fait du boucan, tellement du boucan que... Et puis, bon, un soir, je vois un papa qui me dit, peut-être aujourd'hui, là, après m'avoir verbalisé mille fois, il me dit, peut-être qu'aujourd'hui, tu pourras sortir. Mais le premier jour, quand on t'a interviewé par les chefs, tu le regardais comme ça des yeux. Non, ne refais plus ça. Si jamais il veut t'écouter à nouveau, ne le regarde pas des yeux, ne le fixe pas des yeux. Là-bas, on me fait rentrer dans un bureau, un très beau bureau, et je vois le monsieur respectable, mais que je n'ai jamais vu. J'ai un peu l'impression de connaître les Congolais. Quand je regarde, je sais qui est qui fait quoi, hein, un peu. En tout cas, ceux qui nous gèrent, je connais nos autorités. Mais là, je n'ai reconnu personne, sauf lui-même l'âgé, qui dit, petit, ça va? J'ai dit, en tremblant, hein. J'ai dit, non, ça va aller. Il me dit, on t'a rien pris. En réalité, on m'avait pris, je n'avais pas beaucoup d'argent, hein. Les dimanches en question, je vais avoir quelque chose comme $30 et quelques francs, mais il me dit, on t'a rien pris. Au lieu de dire qu'on m'a pris l'argent, la montre, la ceinture, les chaussures et tout ce que j'avais, j'ai dit, non, on m'a rien pris. Moi, mon problème, c'était de sortir, de sortir, là, on m'a pris. Il dit, bon, petit, nous sommes tombés sur la cassette ici, parmi les cassettes qu'on a confisquées. Tu t'es quand même comporté en compatriote. Donc, ils m'ont vu en train de rappeler aux amis africains que nous, on avait fait ceci avec Mobutu. Donc, si vous voulez la musique. Et puis, bon, c'est dommage, mais bon, petit. Bon, on va te ramener à la maison et on va te donner un peu d'argent. Ça va? Et pars en paix, fais ton travail. Et c'est tout ce qu'il m'a dit. Lorsque nous sommes sortis, l'argent que les agents m'ont donné, au lieu de me ramener à la maison, et ils m'ont plutôt donné 500 francs congolais. Et ils m'ont jeté, curieusement, toujours devant la BCDC. Grâce à vous qui avez fait du boucan. Et voilà, merci.
Merci, merci Eric, cher confrère. Voilà ce que j'allais demander. Merci de cette spontanéité. Alors, cette situation peut arriver à n'importe qui d'entre nous, mais pour une fois, je veux nous demander à applaudir à cette dame et à ces messieurs qui sont courageux. L'enjeu, ce n'est pas de susciter la pitié ou la colère en nous, mais d'essayer de trouver des voies de sortie pour un bel avenir de notre métier, pour arriver à établir un état de droit ici en République démocratique du Congo. Alors je vais à présent donner la parole au président de l'UNPC, M. Kasonga Chilundé. Vous avez la parole.
Chers confrères, chers consoeurs, vous devez savoir que nous faisons un métier à haut risque. Nous faisons un métier où, vous devez le savoir, les hommes politiques ne sont pas nos amis. Tenez-le pour dit, surtout vous les jeunes qui venez, les hommes politiques, les dirigeants sportifs ne sont pas nos amis. Ce sont des partenaires. Imaginez-vous aujourd'hui, vous pouvez être célèbre dans votre rédaction. Vous faites le travail et vous interviewez presque chaque jour. Mais le jour que vous ne serez plus dans ce média-là et qu'il apprendra que vous êtes chômeur, vous allez vers lui, il ne va même pas vous recevoir, il va vous chasser de chez lui. Donc, c'est des réalités que nous avons vécues. Mais alors, qu'est-ce que nous devons faire? Ce que nous devons faire, c'est travailler correctement. Respecter notre déontologie. Parce que quand vous respectez la déontologie, c'est la première source de sécurité. Parce que quand on parle de la sécurité dans la couverture médiatique, il y a d'abord la sécurité de vous-même, le journaliste. Et puis, il y a la sécurité ou les enjeux sécuritaires du pays, ou de votre contrée, ou de votre environnement. Et votre propre sécurité, je dis toujours que c'est avant tout vous-même. Francine a pris des précautions avant d'aller sur le terrain pour poser le problème à ceux qui peuvent gêner dans son travail. Eric est allé sur le terrain, invité par un ami, mais il a eu un discours responsable. un discours patriotique pour démontrer aux amis qui sont arrivés que tout ce que vous dites là-bas, nous, nous l'avons déjà fait ici. Et je crois que c'est ça qui l'a sauvé. Parce que si on avait entendu dans ses déclarations ou sur ces cassettes-là, qu'il avait peut-être dit non, Kabila là c'était mauvais, nous allons tout faire pour le chasser, peut-être qu'on l'aurait enterré aujourd'hui et il n'appartiendrait qu'à l'histoire comme nous avons connu avec les Maéché, les Chirimwami, les Frank Gike, et ainsi de suite. Voilà la situation dans laquelle nous vivons. Et je ne serai pas très long, mais je crois que pour me résumer, la sécurité du journaliste, c'est avant tout le journaliste lui-même. Ayez votre carte de presse. Quand il y a des problèmes qui arrivent comme ça, même si sur place vous avez reçu des coups, mais en fin de compte, vous serez épargné. En fin de compte, il y aura quelqu'un dans la chaîne de la hiérarchie de l'armée, de la police ou des civils de sécurité pour dire que non, c'est un journaliste. On nous appelle tout le temps ici. Les calèves là, à tout moment. Mon frère, mais est-ce que tel vous connaissez, il est vraiment journaliste? Je vérifie, je dis oui, il est journaliste. Il a sa carte valide parce qu'il est répertorié ici. Ah, mais comment peut-il se comporter de cette manière pour faire ça? Moi, je dis, qu'est-ce qu'il a fait? Même si je le sais, je lui pose, ah, voilà, il est contre le régime. Moi, je dis, non, il ne faut pas croire que tous ceux qui critiquent sont contre le régime, agissent. Parce que si vous estimez que nous, tout le monde doit dire la même chose, alors pourquoi nous avons chassé Mobutu pour que Kabila arrive et puis continue comme Mobutu? C'est pas normal. Enfin, je lui parle avec ça parce que c'est quelqu'un que je connais avant qu'il devienne âgé. Même quand il était étudiant, je l'ai connu chez son oncle à Yolo. Donc, on a des relations intimes. Et je lui fais voir tout ça. Que non, c'est pas normal. Ce n'est pas parce qu'on a critiqué le régime, on a critiqué Kabila, on a critiqué un des ministres, que vous estimez que le pays va disparaître. Non. Faites votre travail, laissez les journalistes faire le leur. Donc, je me dis que le premier agent de sécurité du journaliste, c'est le journaliste lui-même. Quand vous respectez les règles de conduite, c'est une très bonne chose. Et ensuite, surtout, quand vous allez dans des reportages comme ça, mais il faut qu'il y ait au moins autour de vous 4 ou 5 personnes qui savent que vous êtes telle part pour telle activité. Et avec ça, il est plus facile que l'information circule, qu'elle soit rapidement diffusée à travers le monde, parce que nous, notre avantage que nous avons, c'est dès qu'on arrête l'un de nous, nous sommes informés. À la seconde, le monde entier sera informé qu'un journaliste a été arrêté. Et rassurez-vous, c'est une grande pression, même si cela qui donne l'impression que ça ne leur fait rien, non. Même si nous-mêmes, nous ne suivons pas, mais il y a des organisations qui ne suivent que ça, qui font notre travail, qui savent qu'à telle date on avait arrêté les journalistes de TV5, à telle date on avait tué Franck Kike, Bapoua Mamba, Serge Maéché, Bruno Chirimwami, ils savent tout ça et ils documentent tout ça. Donc nous ne devons pas être distraits. Quand nous allons faire le travail, s'il y a un sujet à enjeu sécuritaire important, je pense que ce qu'il faut faire, vous êtes seul devant votre conscience et vous avez le papier. Pendant que vous le traitez, posez-vous des questions. En traitant cette information, quelles peuvent être les conséquences pour moi? Parce qu'il y a des sujets, comme on le dit, sensibles. Et vous savez que dès que vous dites cette information, vous risquez d'avoir... Ce n'est pas l'autocensure, non. C'est la responsabilité. Et vous pouvez même poser des questions si le sujet concerne, par exemple, un responsable quelconque. Même Kalev là, vous pouvez l'appeler, lui poser la question. Monsieur Lagis, nous avons une telle information, tout ça. Et qu'est-ce que vous en pensez? Il peut vous donner la réponse, tout comme il peut vous dire, non, je ne réponds pas. Mais quand vous faites votre papier, vous dites, non, nous avons demandé à Kalev, il a dit, je ne sais pas. Faisons très attention. Mais cela ne veut pas dire que nous devons baisser les bras. Non. ce sont les risques du métier, c'est le métier que nous avons choisi, c'est le métier que nous avons voulu. Appliquons notre code de déontologie, faisons notre travail avec beaucoup de professionnalisme, vérifions toutes les informations que nous avons, confrontons les sources. Vous verrez que même si on vous secoue un jour, le lendemain, il y aura toujours quelqu'un supérieur qui viendra pour dire non, arrêtez, ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Il y a beaucoup de cas que j'aurais pu vous citer si on avait le temps et si il était permis de le faire. Mais je vous dis que sur les enjeux sécuritaires, dans la couverture médiatique, il y a votre sécurité d'abord vous-même, il y a la sécurité du pays. C'est pour cela que le code de déontologie nous invite à traiter toutes les informations avec beaucoup de retenue et surtout avec beaucoup de responsabilité. Merci, madame.
Merci. Nos questions, je vous demanderai de les fondre en propositions parce que nous devrions normalement réfléchir sur l'avenir de notre métier au regard de tout ce qui a été évoqué en ayant suivi le président du GED, madame Francine, le président de l'UNPT et notre estimé confrère Eric Iziami. Alors, une première proposition sous forme de question, y a-t-il pas moyen de mettre en place une structure de réseautage comme on a vu avec les journalistes de Panama, travailler ensemble au niveau de l'UNPT ou je ne sais pas au niveau du GED pour un peu créer ces garde-fous et éviter à ce que ces atteintes à la liberté de la presse soient répétitives. C'est une proposition. Alors, je vais aussi vous donner la parole et vous pouvez aussi nous proposer qu'est-ce que l'on peut faire pour arriver à diminuer ou à mettre fin à ces atteintes à la liberté de la presse. Monsieur le Président Chivit, vous avez la parole.
Vous aurez compris qu'en fait, au niveau de la presse ou des médias dans notre pays, il y a beaucoup de défis à relever. Parmi ces défis, vous avez compris, il y a la question de la violence que subissent les journalistes. Il y a la question de l'impunité. Il y a la question des lois, les lois même qui régissent notre profession. Vous savez que la plupart des lois date de l'époque qu'on avait qualifiée l'époque de la dictature. Et donc, ce n'était pas des lois qui étaient façonnées dans le sens de pouvoir renforcer la liberté de la presse ou sécuriser les journalistes. Vous avez la question, il faut le dire aussi, de la pauvreté de nos entreprises de presse qui a des répercussions sur le comportement de certains journalistes. Beaucoup de journalistes travaillent sans contrat de travail. Et donc, ils vont se faire payer là où ils vont chercher l'information. Il ne faut pas se le cacher, il y a une sorte de forme de corruption rampante dans notre profession qui expose aussi les journalistes à un certain nombre de violences. Donc au regard de tous ces défis, nous nous sommes dit au niveau de la profession qu'il n'y a aucune des organisations seules qui peut relever ces défis. Ni GED seul, ni l'UNPC seul ne peut régler tous les problèmes qui se posent, qu'il s'agisse des problèmes qui concernent effectivement les contrats, la pauvreté des entreprises de presse, qu'il s'agisse des questions qui concernent les violences que subissent les journalistes, la question de l'impunité, les réformes que nous devons apporter au niveau de la législation pour essayer de renforcer le travail des journalistes, c'est des problèmes qui se posent à toutes les organisations. Alors nous avons décidé de nous mettre ensemble dans une plateforme que nous avons appelée la dynamique du 27 mai. C'est une plateforme qui regroupe pratiquement toutes les organisations professionnelles des médias. En 2015, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, nous avons organisé tout un colloque sur la responsabilité des journalistes en période de crise. Parce que nous disons, les périodes de tension et les périodes de crise sont des moments propices pour des violations à la liberté de la presse. Et donc, comme on a dit, il faut que des journalistes puissent avoir un comportement qui les sécurise, qui les met à l'abri d'un certain nombre de choses. Et nous avons mis sur pied ce qu'on appelle la charte des responsabilités du journaliste en période de crise. Parce qu'on a énuméré un certain nombre de cas des journalistes qui ont été attaqués, bastonnés, même qui ont été tués. J'ai dit que la liste reste ouverte et peut se prolonger parce que, entre-temps, il n'y a aucune mesure qui a été prise, soit sur le plan sécuritaire, sur le plan légal, pour essayer de renforcer la sécurité ou la liberté de la presse. Donc, à tout moment, un journaliste peut se faire arrêter, peut se faire tuer, peut-être emprisonné. Et donc cette charte-là de responsabilité, je ne sais pas si beaucoup des journalistes l'ont lu, je pense qu'il est important qu'on puisse vulgariser assez cette charte qui comprend un certain nombre de dispositions, des conseils qu'on donne aux journalistes. Et comme a dit le Président, nous pensons qu'un journaliste qui respecte strictement son code d'éthique et déontologie, qui respecte cette charte-là, se met à l'abri des attaques pour au moins 60 à 70% des cas. Maintenant, les 30% autres, ça peut être dû au fait que bon, nous sommes dans un pays où l'impunité est instituée, comme on a dit. Quelqu'un vous arrête de manière tout à fait illégale, arbitraire, il vous bastonne et puis il n'y a rien qui est fait. Tout comme vous pouvez aussi vous retrouver à un mauvais endroit, comme on dit, au mauvais moment. Ça, c'est la malchance. Ou les risques du métier, comme on a dit. Mais, de manière générale, quand vous respectez bien les dispositions de votre code, qui est en fait notre code de conduite, on se met au moins à l'abri pour 60 à 70%.
Bon, je trouve que c'est une bonne chose ce que propose le secrétaire général de GED. Mais je crois que... On pourrait, bon, il y a des actions à mener à l'endroit des journalistes, mais je crois que forcément, il y a aussi des actions, comme tu as dit, le plaidoyer, à mener à l'endroit des autorités, surtout des responsables de la police et de l'armée, sur la manière dont ils doivent considérer le journaliste. Mais ce n'est pas seulement le policier ou l'armée. Mais moi, j'ai l'impression que c'est toute personne qui a un certain nombre, qui a un certain pouvoir quelque part. Donc cette personne a un comportement de supériorité face à un journaliste. Donc le journaliste, c'est vraiment quelqu'un qu'on doit humilier, qu'on ne doit pas considérer. Mais je prends un exemple. J'ai remarqué que depuis la mort de Tchebeya, les activistes des droits de l'homme sont mieux considérés que les journalistes. Pourquoi? Ils sont dans des organisations comme nous. C'est nous qui relayons ce qu'ils font. Bien qu'ils ont des canaux de communication, tout ça, mais c'est nous qui faisons aussi le travail. Quand eux se font des communiqués, quand ils parlent des activistes des droits de l'homme qui sont arrêtés, tout ça, mais aujourd'hui, ils sont mieux considérés que le journaliste. Alors que le travail que nous faisons pour les autres, on ne peut pas le faire pour nous-mêmes. Nous devons faire un effort. Moi, je crois que le journaliste doit d'abord prendre conscience de... À côté de tout ce que le secrétaire général de GED a dit, respect de la déontologie, de l'éthique, bien faire le travail, peser le pour et le contre, tout ça, mais nous devons aussi militer pour que nous ayons un peu plus de respect, qu'on considère qu'un journaliste ne soit pas toujours considéré comme un mendiant, comme un bon à rien, quelqu'un qu'on met toujours derrière les autres, même un agent de gardiennage peut jouer avec un journaliste, mais ça c'est des comportements révoltants que nous devons vraiment nous révolter, essayer de trouver, de faire un travail, je ne sais pas, peut-être que dans le lot de propositions que l'organisation, la plateforme va faire, à côté des plaidoyers que vous allez faire, il faut peut-être voir comment faire aussi des spots de sensibilisation. Il faut que les médias s'impliquent, que le journaliste s'implique lui-même pour faire passer tous ces messages d'indignation, pour demander un peu plus de respect.
Vous avez pleinement raison. Je crois que on a évoqué le cas d'impunité. Je pense que nous devons nous organiser. Nous devons nous organiser de sorte que... Parce que vous imaginez que la violence ne vient pas seulement, comme l'a dit Francine, de la police ou de l'armée ou des choses, mais c'est tous les tenteurs du pouvoir qui en abusent. Parce qu'ils estiment que, et à tous les niveaux, et ici, et surtout en province, qui croient qu'il est plus puissant et donc il peut prendre le journaliste, le mettre au cachot, et comme il entend, au gré de ses humeurs. Et je pense que nous devons nous organiser. Et nous avions entamé cette action-là il y a quelques mois à Africana Palace. Comment pouvez-vous imaginer que lorsque vous apprenez qu'il y a un ministre qui a fait arrêter un journaliste, on le dénonce, mais il y a les confrères qui soutiennent ce ministre-là. Vous sentez que même si le journaliste a commis une faute, la première des choses, c'est le défendre. Quitte à ce qu'à l'intérieur, nous puissions le sanctionner. Mais si vous soutenez le fameux ministre ou la fameuse DG, ça pose un problème sérieux Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est comme si vous dites, non, continuez à nous traquer, continuez à nous emprisonner, et vous avez raison. Non, moi je pense que nous devons changer, prendre nos responsabilités pour que quand un confrère, une consoeur est en difficulté, qu'il ait tort ou pas, que nous puissions nous liguer pour le défendre. Ça doit être notre première démarche. Le reste, on verra ça plus tard, mais avant tout, défendre, le tirer de ça. Parce que je répète toujours, les hommes politiques, les dirigeants sportifs, parce que ce sont les deux secteurs très importants de la vie. Le musicien, oui, je crois, les chroniqueurs de musique. Donc, nous devons faire en sorte que, à ce niveau-là, s'il faut que nous prenions des sanctions, nous pouvons le faire. Et vous savez que nous avons une arme qu'on appelle embargo. C'est déjà quelque chose de très important, même si il ne va pas le ressentir. Mais imaginez-vous, vous faites une semaine, Bitakura n'est pas entendu sur une radio, mais vous l'avez tué. Vous l'avez tué. Il ne voit pas son image à la télé. Donc, c'est ça où on peut nous respecter. Aujourd'hui, les défenseurs des droits de l'homme, ben, ils sont plus unis, ils sont plus forts, et ils se font respecter, c'est pour ça qu'on les respecte. Et si nous ne le faisons pas, nous estimons que non, parce que celui-là nous donne $20, parce que nous n'avons rien à manger à la maison, donc, à partir de ce moment-là, nous ne devons pas pleurnicher pour ce qui nous arrive. En ce qui concerne le réseautage dont Michou a parlé, moi j'estime que ça ne sert à rien de créer trop de structures. Vous avez déjà au niveau de chroniqueurs de politique, il y a un collectif, c'est ça non? Un collectif, et hier on a fait une activité ici avec eux toute la journée. Donc je crois que comme les secteurs les plus connus qui nous posent des problèmes, c'est premièrement la politique, et puis un peu le sport et la musique. Mais c'est des secteurs que nous devons suivre, et ces secteurs-là sont organisés. Il y a des associations dans ces secteurs-là, et qui, bon an, mal an, font ce qu'ils doivent faire. Donc je pense que nous devons plutôt renforcer le collectif des journalistes, chroniqueurs politiques, voilà comment ils s'appellent. Donc, les renforcer, et ceux qui font la politique dans leurs organes de presse, ils peuvent adhérer à ces organisations-là, de sorte que demain, et quand il faut maintenant l'alerte, ce n'est pas seulement eux, c'est nous tous là, nous tous qui sommes appelés à nous jeter à l'eau pour défendre notre confrère, notre consoeur qui a des problèmes, comme on l'a fait l'autre fois avec lui, avec Francine, avec Bichi, je crois une fille là qui a été agressée par les étudiants de l'IBTP. L'affaire a continué et le directeur général avec Yves Kisombe, une journaliste de Eugénie Ntumba. Nous avons pris ça, on a fait une marche et vous avez vu que ça portait. Donc il faut que nous soyons en mesure de nous défendre nous-mêmes d'abord, et de nous dire que les politiciens ne sont pas nos amis, ce sont des partenaires. Quand on fait une activité avec eux, ça s'arrête là et puis c'est fini. Que, au lieu de vous dire que non, parce qu'il a dit qu'il est mon ami. Non, votre ami depuis quand?
Oui, je voulais juste ajouter un petit détail pour appuyer ce que le président dit. Parce que nous, généralement, peut-être à cause de ce que nous représentons, la manière dont les gens nous regardent, le journaliste ne se rend pas compte de ce qu'il est. Moi, j'ai vu ça. Nous avons été agressés, c'était un samedi. Non, c'était un jeudi, quelque chose comme ça. Bon, enfin, un mercredi, hein. C'était un mercredi. Les médias en ont parlé, ont commencé à en parler jeudi. Et le jeudi, quand nous sommes arrivés voir le responsable de la LENI, il nous a fait attendre pendant 6h30 avant de nous recevoir. 6h de temps. Nous étions là à attendre. 6h30 de temps avant de nous recevoir. Parce qu'il était dans son bureau, il n'avait pas encore eu vent de ce qui se passait dans la ville. Mais le lendemain, lorsque nous sommes arrivés, il nous a reçus tout de suite. Pourquoi? Parce que le boucan qui a été fait autour de l'affaire, et il a eu des coups de fil de ses enfants qui sont, je ne sais pas où, aux États-Unis ou quoi, qui l'ont appelé pour lui dire, papa, vous allez jusqu'à réuriner sur les gens. Donc il a, oui, c'est ce jour-là que je me suis dit, il ne faut pas blaguer avec la presse. Nous avons une arme entre nos mains. Donc c'est question de faire confiance aux organisations et d'utiliser cela parce que nous ne devons pas, comme ça, nous laisser faire, nous faire harakirir nous-mêmes. On ne doit pas commencer à nous maltraiter, à nous tuer alors que nous avons une arme entre les mains. Il faut vraiment que nous fassions confiance à nos organisations et appuyer tout ce qui est fait en faveur des journalistes.
Oui, je voudrais rajouter pour dire que les aînés ont parlé, mais pour nous faire respecter, c'est vrai tout ce qu'ils ont dit, pour nous faire respecter, il faudrait que dans l'opinion, le journaliste soit perçu aussi comme celui qui vient apporter ce que l'on attend de lui. Ça pose aussi problème, et surtout pour nous jeunes, je le dis par rapport à nous qui sommes jeunes, nous qui venons. Le fait d'avoir terminé l'université ne signifie pas tout savoir. Nous avons encore la chance d'avoir nos aînés devant nous. Allons vers eux pour nous abreuver et apprendre. On ne sait jamais d'apprendre dans ces métiers. Vous savez, la plupart de métiers ici, pour que vous sachiez qu'un médecin est un bon, il doit commencer par vous diagnostiquer, vous examiner, vous prescrire le médicament et la cure va prendre du temps pour qu'à la fin, s'il y a guérison, vous dites que c'est un bon. Un avocat, il est ici, il actionne au niveau de la justice, il va plaider, il va cesser. Le jour de la sentence, si vous gagnez le procès, c'est un bon. Mais pour nous, le journaliste, on nous dit qu'il faut mourir à la tâche. C'est chaque jour que vous êtes jugé, même par ceux qui n'ont pas votre niveau, je veux dire scientifique. Donc mettons-nous véritablement au travail. Vous savez, hier, comme le disait le président, on nous a entretenus sur la responsabilité sociétale des journalistes que nous représentons. Notre pays, c'est un pays de beaucoup d'enjeux. Mais apparemment, on s'arrête seulement à croire que puisqu'on commence, et surtout pour nous qui sommes de la télévision, nous devons apprendre à travailler véritablement. Le végétariat, non. D'abord le travail. Et par le travail, on sentira que nous n'avons pas seulement la forme, parce qu'on nous voit à la télévision, mais on a un contenu, on a quelque chose à dire à notre public pour que celui-ci se mette véritablement au travail, et puis on va avancer. Un auteur célèbre, Charles Baudelaire, Fleur du Mal, disait, pour que la loi du progrès existât, il aurait fallu que chacun puisse la créer. Nous devons créer la nôtre. C'est-à-dire de travailler et de manière vraie. Nos aînés sont là, allons vers eux, apprenons pour rendre et bien rendre dans l'opinion.
Merci. Alors nous allons à présent ouvrir les propositions. Nous allons prendre trois séries. La première équipe sera composée de trois hommes et trois dames. Voilà. Vous pouvez vous lancer, vous vous présenter et vous citer l'organe au sein duquel vous travaillez, et on va vous répondre.
Oui, Janine Kalinga, RTMC1. Je m'adresse ici aux organisations qui nous dirigent, nous les journalistes. L'hostilité des agents de sécurité envers les journalistes est très permanente, et puis moi, personnellement, ça m'inquiète beaucoup. C'est pour cela que je me demande, je propose ici, qu'en dehors, nous, par exemple, les organisations, nous attendons qu'il y ait un forfait pour faire le bruit. Et pourquoi pas mener des actions en aval, c'est-à-dire organiser certaines rencontres avec des instances judiciaires, pour qu'à leur niveau, ils puissent aussi faire comprendre leur service que le travail des journalistes est un travail noble qui mérite d'être respecté. Sous d'autres cieux, quand nous couvrons certains événements, vous vous retrouvez dans la foule et vous voyez que c'est le service de sécurité qui vous aide à mieux faire votre travail. Et pourquoi ça ne peut pas être le cas chez nous? La deuxième question, je reviens aussi sur la solidarité entre les journalistes. Moi, par exemple, dans certaines rencontres, je me sens lésée, mal à l'aise. Pourquoi? Parce que le média que nous représentons parfois est hostile même envers d'autres confrères. D'autres confrères sont hostiles envers le média que nous représentons. Tu débarques comme ça, soit ils étaient en train de discuter sur un sujet. Quand tu approches, tu vois comme si les gens t'évitaient. Et il y en a qui ont eu le courage à nous lancer à Banamende, Kassi Banamende. Donc, parfois, nous faisons notre travail. Le média, représenter un média quelconque, cela ne veut pas dire que nous sommes ou nous représentons un parti politique quelconque. Non, c'est juste le métier et qui nous a poussé à mener à être intégré tel ou tel autre média. En tout cas, j'insiste beaucoup sur la solidarité entre les journalistes. Et puis là, c'est pas une suggestion, c'est juste une question que j'adresse à mon aînée Francine Moukoko. Vous, quand même, vous avez eu la chance de travailler sous deux régimes différents. Quelle lecture pouvez-vous faire par rapport à la liberté de presse?
Bonjour les amis, c'est Saint-Hervé, oui, journal Nouvel Observateur. Passion, j'ai retenu particulièrement le président de l'UMPC qui a parlé en termes de responsabilité. Cela m'amène à poser la question s'il y a un comité au niveau de l'UNPC. Ce sont le même mouton noir qui nous rendent la tâche difficile. Je comprends entre autres le comportement de qui a des antécédents par rapport à certains. C'est un problème de. Il y a Elidia Miquet avec moi au Palais du Peuple. Quelque part, la responsabilité est partagée au niveau de patron des presses aussi. Il arrive par moments dans certains organes, on parle de grands reporters. On comprend par le terme grand reporter, ce sont des journalistes responsables qu'on envoie sur terrain. Parce qu'ils savent comment se défendre. Curieusement, on est dans le couloir de Palais du Peuple, c'est presque le proxénétisme. Le patron de presse qui envoie un stagiaire non formé à aller côtoyer des politiciens, de baleines qui sont là-bas, et il se livre à tout parce qu'elle n'est même pas payée. Donc, quand on parle de responsabilité, entre autres, c'est le profil nous-mêmes. J'apprécie encore quelqu'un qui m'avait dit l'autre fois que le président Tshivhisa a dit « Aidez Jette à vous aider ». Aider les confrères à vous aider. Parce que moi, en tant que journaliste professionnel, il peut se faire par solidarité, je peux soutenir un confrère, mais il y a une question aussi des responsabilités. Comment il s'est comporté sur terrain? Je veux, pour terminer, ma grande sœur qui s'est défendue à la police parce qu'elle avait le minimum pour se défendre. Mais ces enfants que vous envoyez sur terrain, entre autres, il y a une responsabilité aussi des patrons de presse. Et le plus souvent, quand les organismes de presse, GED et autres, les invitent à venir ici, ils envoient des représentants. Donc, je voulais revenir sur cet aspect-là de responsabilité. Merci.
On peut s'arrêter ici ou on peut... D'accord. Visiblement, encore répondre. La question est adressée à Francine Moukoko et au président de l'UNPC.
Bien, merci, Madame Kalenga. Oui. Oui, c'est-à-dire que nous parlons tous les jours avec les responsables, à tous les niveaux. Et nous pouvons même vous dire que c'est pour cela que parfois on se fait de bonnes relations avec ces autorités, parce que nous avons l'obligation de vous défendre. Et parce que nous devons vous défendre, tant que vous n'êtes pas en bonne intelligence avec ceux qui peuvent trouver des solutions à nos problèmes, ils ne peuvent pas le faire. Et si vous avez entendu que le général Kanyama a demandé à ses militaires de laisser les journalistes faire leur travail, c'est pas tombé du ciel. Donc ça, vous devez savoir que c'est notre travail, mais on ne peut pas tout le temps le dire, parce qu'à un moment donné on risque de gêner certains d'entre eux. Pour la solidarité, mais vous avez pleinement raison, nous devons être solidaires. Nous devons être solidaires. Il est vrai que la RTMC, entre nous, n'a pas bonne presse par rapport à la manière de traiter l'information. Mais est-ce que cela dépend-il des journalistes qui travaillent à la RTMC? Moi, je dis non. C'est une ligne éditoriale, comme qui dirait. C'est un média d'État. Et en tant que média d'État, c'est l'État qui oriente. Mais le jour que, parce que c'est ça la guerre que nous sommes en train de mener jusqu'à ce jour, pour que la RTNC, l'ACP sortent du carcan de médias d'État pour devenir les médias publics. Et à partir de ce moment-là, il sera plus facile de donner à tous les courants de s'exprimer, et ensuite, effectivement, on va dire que c'est en ce moment-là qu'ils deviendront l'église au milieu du village. Maintenant, là, comme ils sont au coin d'un village voisin, vous comprenez que ça pose un problème. Et à notre ami, c'est Mbouy, c'est ça ?
Hervé Mbouy.
Hervé Mbouy. Mais vous le savez, l'UNPC n'engage pas les journalistes. Les journalistes sont engagés par les organes de presse. Et il y a un processus. Et d'ailleurs, la loi n'est même pas respectée en la matière. Parce que je n'ai jamais entendu un organe de presse qui a engagé un journaliste sur concours. À l'époque, oui. Les Français ici, je crois qu'ils sont passés à la RTNC sur concours. Mais aujourd'hui, là, c'est tel qui recommande tel, c'est tel qui prend sa nièce, son neveu. Et à partir de ce moment-là, quelle que soit la manière dont il va traiter l'information, le responsable qui gère celui qui vient d'arriver, même s'il fait son rapport négatif au chef au-dessus, on ne va pas l'écouter. Parce qu'on va vous dire non, c'est un recommandé d'eux. Et à partir de ce moment-là, nous sommes en difficulté pour apprécier et décider, parce que nous n'avons pas la décision là-dessus, mais nous avons peut-être, c'est quand il y a des plaintes, on peut le faire. Les moutons noirs, mais les moutons noirs, on les trouve partout. Même au gouvernement, il y a des moutons noirs. Hein? Pourquoi vous estimez qu'il n'y a que dans la presse, il y a des moutons noirs? Non. C'est-à-dire que ce que nous devons faire, c'est nous battre ensemble, dans nos contacts de tous les jours, en échangeant avec nos confrères et consoeurs, pour atténuer la manière de traiter l'information. Atténuer tout ce qui peut nous conduire à des arrestations, à des assassinats, à des menaces. À partir de ce moment-là, nous aurons fait œuvre utile au lieu de penser que la manne va tomber du ciel. Non, il ne tombera plus. Dieu est fatigué, il ne tombera plus la manne du ciel.
Francine, Janine Kalenga veut savoir quelle lecture j'ai fait de la liberté de presse après avoir travaillé dans les deux régimes que nous connaissons ici. Bon, je crois que ça, sur le plan de nombre de journaux, sur le plan de nombre de médias, tout ça, on a fait quand même une évolution. Il y a plein de médias audiovisuels, plein de médias de la presse écrite. Nous avons beaucoup de journalistes, je crois que le nombre a augmenté, vous connaissez. Mm-hmm. Il y a beaucoup de journalistes à travers le pays, donc sur ce plan-là, il y a une évolution. Mais sur le plan de l'exercice, de cette liberté, bon, je crois qu'on n'a pas beaucoup avancé. Même sur j'ai une liste ici, on voit sur le régime de Mobutu, il y a eu des exactions. Il y a des journalistes qui ont été tués, il y a des gens qui ont disparu. Mais sur le plan de Kabila, bon, dans le régime de Kabila, c'est encore pire. Hein? C'est-à-dire que la situation n'a pas beaucoup amélioré. En fait, elle a régressé, en fait. Elle a régressé parce que l'état policier est installé là, la nervosité, l'hostilité des forces de l'ordre face aux journalistes, c'est un peu trop aujourd'hui. C'est un peu trop. Parce que j'ai remarqué que les forces de l'ordre ne veulent pas voir une caméra. Donc, ils identifient un journaliste à partir d'une caméra ou d'un appareil photo. Donc, on met une caméra et un appareil photo directement, vous êtes journaliste et ils deviennent hostiles. Même si vous n'avez rien fait, vous ne pouvez pas vous mettre là où vous êtes. Donc il est là pour vous traumatiser, vous maltraiter, tout ça. Donc pour moi, ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a pas beaucoup changé. Au contraire, ça a empiré.
Je vais compléter un petit peu.
Allez-y,
président. Par rapport à cette question précisément, pour dire la liberté de la presse, ce n'est pas un cadeau qu'on donne aux journalistes. Ce n'est pas nous, ce n'est pas vous qui avons inventé ça, parce que nous avons des textes qui reconnaissent et qui garantissent ce droit pour le journaliste de pouvoir travailler et de ne pas être inquiété. Vous avez la Constitution qui garantit la liberté de la presse et nous avons une loi particulière qui en fixe les modalités d'exercice. Donc il ne suffit pas d'avoir les textes, mais encore, il faut voir dans la pratique ce qui se passe. Donc vous avez les textes qui garantissent, mais en pratique, il y a un grand fossé entre ce que disent les textes qui garantissent et la pratique au quotidien. Et on vous a dit, chaque jour, notre travail, c'est de faire ce monitoring, cette surveillance. Et quand nous publions nos rapports, mais c'est des centaines de cas des journalistes que nous enregistrons, des cas de violations que nous enregistrons chaque année. Moi, je ne connais pas une autre profession dans ce pays où on enregistre autant d'attaques et de violations comme dans le secteur des médias. Regardez nos rapports. Vous regardez un peu chez les médecins, regardez chez les professeurs. On ne peut pas dire qu'il n'y a que dans la presse où il y a des cancres ou des idiots. Mais vous regardez dans d'autres secteurs, il y a aussi des gens, comme il a dit, des moutons noirs, on peut les trouver partout. Mais dans la presse, il ne s'agit pas de bavures, comme peut-être on a parfois l'impression de croire que c'est des bavures. Non, il ne s'agit pas de bavures. Il s'agit, ça fait partie d'un système de répression qui est mis en place contre les droits et les libertés. Et ce système se nourrit justement de l'impunité. L'impunité qui entretient l'insécurité pour les journalistes. C'est là que ça devient dangereux. Alors, ce que nous essayons de faire, c'est quoi? Bon, déjà, quand vous regardez sur le plan mondial, on peut ne pas être d'accord. Nous sommes quand même 154e pays, sur 180 pays du monde, où on ne respecte pas la liberté de la presse. On peut discuter ce rapport, mais ce sont les faits, ce sont les chiffres. Ce n'est pas parce que les autres l'ont dit, mais nous le disons aussi, que la situation est en recul. Rien que constater les chiffres, la situation est en recul et inquiétante. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous proposons des réformes. Aujourd'hui, en ce qui concerne, par exemple, les lois, vous savez que depuis plusieurs années, nous nous battons pour avoir ce que nous appelons la dépénalisation des délits de presse. Parce qu'aujourd'hui, la loi qui est là, la loi de 96, et vous devez le savoir, elle permet à ce que vous puissiez être arrêté, mis en prison, même lorsque vous dénoncez un fait avéré. Vous pouvez écrire une information, vous pouvez avoir des preuves que tel responsable d'une entreprise a détourné de l'argent. Quand vous le dites, s'il vous poursuit, vous allez être condamné à 6 mois de prison. Même si vous avez dit la vérité. Parce que c'est ce que la loi prévoit. Et donc il faut le savoir et donc faire attention. Oui, c'est la loi sur la presse qui renvoie au code pénal. Quand il y a le problème de diffamation, on nous juge comme si on jugeait un voleur de poule. Donc c'est ça. Donc il n'y a pas une différence entre le journaliste et quelqu'un qui commet un délit de droit commun. C'est pour ça que nous sommes en train justement de nous battre pour ça. De même que nous battons aussi pour avoir cette loi d'accès à l'information. Parce que je sais que les journalistes ont beaucoup de difficultés pour accéder aux sources d'information. Il n'y a pas une loi aujourd'hui qui fait obligation aux détenteurs de pouvoir, aux gestionnaires des entreprises, de pouvoir donner les informations aux journalistes. Et généralement, quand le journaliste est faute d'avoir l'information à la source, il donne son information et puis ça lui apporte des ennuis. Donc je crois qu'il y a des réformes en profondeur qu'il faut faire. C'est vrai qu'on peut dire il n'y a pas autant des journalistes en prison, par exemple, pour le moment, il y a un moment où on pouvait en compter même 10 à 20 en prison, mais il y a un effort qui est fait dans ce sens-là, au niveau des organisations, mais aussi parce que nous développons un certain nombre de rapports avec ces responsables pour leur faire comprendre l'importance et la nécessité de pouvoir respecter le travail des journalistes.
D'accord. D'accord. On sent qu'il y a beaucoup. Est-ce que mes confrères et consoeurs, on va donner la parole au président de l'UNPC et au président de GED pour conclure ce café débat.
Merci beaucoup. Merci, consoeurs et confrères, pour vos questions pertinentes et les questions qui méritent parce que vous avez le souci de votre profession. Et rassurez-vous que je vais les ramasser. Et celui qui ne sera pas satisfait peut m'aborder à tout moment pour un peu plus de détails. Je suis à votre disposition et je dis toujours que l'UNPC, c'est votre maison. Vous m'avez chargé de vous la garder, mais personne ne vous interdit d'y venir. Il n'y a pas de protocole à l'UNPC. À tout moment, quand vous venez, dès que vous apprenez que je suis là, on vous annonce, je vous reçois. Donc je crois que... Il faut des contacts réguliers, permanents. On échange, on peut résoudre beaucoup de problèmes. En ce qui concerne l'embargo, je vais dire à notre ami Yannick que je veux lui citer deux exemples. Le premier exemple, c'est à l'époque de Mobutu. Il y a l'équipe de Bilima Dragon qui devait aller jouer au Katanga. Et l'OZRT à l'époque avait désigné M. Kaboulo pour aller couvrir ce reportage. Kaboulo arrive à l'aéroport, les dirigeants de Dragon refusent qu'il embarque parce qu'ils estiment que c'est un Imanien, il ne doit pas venir couvrir notre tournée. Et Kaboulo n'est pas parti, il nous informe à l'époque, j'étais dans le comité, comment on appelle, comité urbain de l'association des joueurs sportifs, j'étais secrétaire, et c'est le président Famba, le père de Mayoyo derrière là, qui était président. Nous nous sommes réunis et nous avons décidé de décréter un embargo sur le séjour de Bilima au Katanga. Il devait faire Lubumbashi, Likasi, Kolwezi. Et pour notre bonheur, cet embargo a été même suivi par les médias du Katanga. Voire les médias de Brazzaville. Et quand JP est revenu, il s'est réalisé que c'était une grande action qui a pratiquement détruit l'équipe. Il est venu demander pardon. En demandant pardon, il dit, bon, est-ce qu'on peut, maintenant que vous avez accepté notre pardon, mettre les images du séjour de Bilima au Katanga? Nous avons dit non. Ces images-là ne pourront plus passer. Cette affaire-là est déjà terminée, on n'en parle plus. Deuxième cas, c'est l'année dernière. Vous vous rappelez lorsque les sociétés de téléphonie cellulaire avaient augmenté les prix de méga pour l'Internet. Nous avons protesté, nous avons écrit, nous avons appelé, comme toujours. Et puis, en fin de compte, nous avons décidé un embargo. Nous avons dit, pas un embargo, mais nous avons dit, lundi, sans médias, sans unités. Au début, là, quand nous avons annoncé, j'ai eu l'impression que les autorités là ne comprenaient pas exactement ce que ça voulait dire. Mais à partir de samedi, dimanche, mais j'ai eu des coups de fil. Pour mon bonheur, mon téléphone est tombé en panne. Et j'étais à Goma. Mon téléphone est tombé en panne et tout ça. Et puis quand au niveau supérieur, on m'a eu, mais qu'est-ce qui se passe pour le président? Comment vous pouvez avoir un téléphone qui tombe en panne et tout ça? Moi, je dis, mais parce que vous ne me donnez pas l'argent, vous voulez que je fasse quoi? Et cet embargo n'a pas été respecté par tout le monde, surtout ici à Kinshasa. Beaucoup d'organes de presse ont estimé qu'ils avaient des contrats, qu'ils ne pouvaient pas ne pas publier leurs journaux ou leurs choses le lundi. Mais avec l'appui de, comment on appelle, FRPC, donc Fédération des radios de proximité, radio communautaire, dans toutes les provinces de la République, cette décision a été largement suivie. Même ici, il y a des médias qui n'ont pas publié, il y a d'autres qui ont publié. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ça veut dire que quand nous décrétons une telle décision, nous sommes convaincus, nous sommes conscients qu'il y a des médias qui ne vont pas relayer ça. Et même cette décision-là, Radio Okapi nous avait dit non, comme nous sommes Radio des Nations Unies, nous ne pouvons pas respecter ce mot d'ordre. La RTNC nous a dit non, comme nous sommes médias d'État, nous ne pouvons pas respecter ce mot d'ordre. En conséquence, tous les autres médias ont suivi. Et on a senti l'impact de cette décision que nous avions prise. Donc quand on prend une telle mesure, nous sommes conscients que tout le monde ne va pas respecter, mais ceux qui vont le faire, c'est déjà quelque chose. Parce que même aujourd'hui, il s'est révélé que c'était au mois de juin, mais le 30 juin, j'étais invité au défilé du 30 juin à Kindu. Quand j'arrive dans la tribune d'honneur, mais j'ai vu même des généraux, des ministres, qui savait que j'avais décidé lundi sans presse, lundi sans crédit. Ça veut dire que l'information avait porté. Il suffit que 30-40% de nos confrères respectent cette décision, c'est déjà une victoire pour la profession, parce que on ne le fait pas ni pour moi-même, ni pour Jed, ni pour... Non, nous le faisons pour vous. C'est vous que nous protégeons. Mais si vous ne voulez pas être protégé, mais dites-le, on va vous laisser comme ça. Phénomène de coupage. Mais ce n'est pas un phénomène d'aujourd'hui. Le phénomène est amplifié par beaucoup de choses. Le secrétaire général de GED vous a dit tout à l'heure là, dans nos médias là, il n'y a pas de salaire. Aujourd'hui là, et puis vous savez que le produit qui permet à un organe de presse de renflouer ses caisses, le premier produit, c'est quoi? C'est la publicité. Mais aujourd'hui, dans ce pays là, vous voyez la publicité où? Tout le monde ferme. Et dernièrement, Bralima a rompu le contrat avec tout le monde. Il reste peut-être quelques compagnies de téléphonie cellulaire, mais qui ne représentent absolument rien du tout. Conséquence, ces médias-là sont obligés de fermer. Et à défaut de fermer, ils disent, bon, vous pouvez aller vous débrouiller autant que vous pouvez, et pourvu que vous... Nous résistons. Aujourd'hui, je prends par exemple la presse écrite. Il n'y a aucun organe de presse dans cette ville qui imprime à plus de 2000 exemplaires. Non? Tout simplement parce que d'abord, les moyens n'existent pas. Et même si on imprime, il n'y a pas de gens qui achètent. Parce que pour acheter, il faut avoir un pouvoir d'achat. Et pour avoir un pouvoir d'achat, il faut qu'il y ait des sociétés. À l'époque de Mobutu, entre nous, soit dit en passant, il y avait beaucoup de sociétés ici. L'argent circulait, les gens en avaient. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons? Mais c'est un drame que nous vivons. Nous sommes là, un État, parce que nous sommes encore là, nous parlons, nous pouvons nous retrouver. Mais au fond, les organes ici étaient subventionnés par l'État à l'époque. Mais aujourd'hui, quel est l'organe qui est subventionné par l'État? RTNC n'est pas subventionné. RTNC, c'est un organe d'État. ACP, c'est un organe d'État. Donc, c'est ça la différence qu'il faut faire. Qui émarge au budget de l'État. Donc, quand vous allez au budget de l'État, vous voyez toutes les rubriques, fonctionnement, salaire, mission, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas le cas avec Numérica, avec le potentiel, avec l'avenir, non. C'est ça la différence. Et ces organes pouvaient bien avoir des moyens si, comme à l'époque, on avait dans ce pays au moins 5 sociétés de fabrication de pagne au wax. Vous le savez, non? Dans ce pays, dans cette ville ici, on avait des sociétés pour monter les véhicules. Ben, aujourd'hui, nous sommes... Est-ce qu'il y a encore, même dans nos provinces, il y avait des quartiers qu'on appelait des quartiers industriels? Mais ça n'existe plus. Bralima n'est plus à Mandaka, vous le savez. Bralima n'est plus à Boma. Unibra n'est plus à Kananga. Ni à Kisangani. Hein? Donc, ils ont fermé partout. Donc, aujourd'hui, l'économie congolaise, elle est à quel niveau? Down. Et à partir de ce moment-là, comment vous estimez que partout ailleurs, ça ne marche pas et vous voulez que ça marche seulement dans les médias? Non. Excusez-moi, c'est des vérités qu'il faut dire, que vous devez savoir. Un élément d'une société congolaise. Quand la société est en faillite, nous aussi nous le sommes. Et notre combat doit être qu'il y ait stabilité politique. Et quand il y a stabilité politique, en ce moment-là, les investisseurs peuvent venir. Aujourd'hui, je peux vous dire encore davantage. Il y a quelques amis étrangers qui ont signé des contrats avec les ministères. Mais tous les nouveaux ministres qui sont arrivés ici ont cassé pratiquement tous ces contrats-là. Parce qu'ils demandent de l'argent, parce qu'ils sont venus chercher l'argent pour les élections. Et imaginez-vous si tous ces partenaires-là portent plainte contre l'État congolais. Vous voyez où ça va nous amener? Donc c'est ça la situation de notre pays. Nous devons en être conscients et nous devons prochainement, avec l'appui de Internews, nous retrouver pour réfléchir davantage sur cet aspect-là et voir quelles sont les solutions que nous pouvons trouver et comment ça peut changer. Et moi, je vous dis d'emblée que ça ne peut changer que si on organise des élections, il y a un nouveau gouvernement qui inspire confiance qui ne va pas dire que demain, moi, je vais glisser. Et à partir de ce moment-là, les investisseurs seront convaincus et ils peuvent investir pour le long terme. Sinon, nous allons toujours continuer à pleurer. Quant à l'octroi de la carte, mais chez les indépendants, mais il y a la loi qui détermine qui est indépendant et qui ne l'est pas. Et ça, le comité, la commission actuelle de la carte, il veille. On ne donne plus de cartes à n'importe qui. Ça, rassurez-vous, vérifiez, vous allez le voir. Il n'y a aucun indépendant qui n'a prouvé qu'il vit de sa profession, qu'il faut avoir la carte. Non. Il reste Jean-Marie Kassamba. Non. Jean-Marie Kassamba, c'est vrai, c'est un journaliste comme vous, comme nous. Alors, voilà. C'est comme vous. Donc aujourd'hui, vous allez dire que Koukou Bamengi passe, il n'est pas journaliste. Il est journaliste comme vous et moi. Mais simplement, par excès de zèle, excusez-moi, je crois que c'est le mot qu'il faut, il estime que la meilleure manière de me faire valoir auprès du régime, c'est d'aller au-delà de ce que je dois faire, de l'information. Et il le fait. Il est vrai, on lui dit tous les jours et tout ça, mais entre nous, soit dit en passant, vous ne savez pas les contraintes auxquelles il est soumis par ceux qui font qu'il soit là. Ça, c'est des vérités que vous ne savez peut-être pas. Mais je ne voudrais pas aller en détail. Sachez que il ne le fait pas de par lui-même. Vous ne savez pas quelles remontrances on lui fait très souvent, parfois quand il prend des gens qui se permettent un peu plus de liberté, au-delà de ce que, des limites qu'on aurait fixées. Donc, je crois que nous devons... Et puis, il est président de l'UNPC Kinshasa. Mais c'est vous qui l'avez élu. Il ne faut pas dire non. Il a nommé par qui? Il a été nommé par qui? On a convoqué une assemblée générale. Les journalistes sont arrivés. S'il vous plaît, soyons sérieux. Soyons sérieux, parlons sérieusement. On a convoqué les journalistes, ils sont venus, ils l'ont élu. Et l'année prochaine, son mandat termine. Si vous estimez qu'il peut continuer, vous renouvelez son mandat?
Non.
Oui. Voilà, madame, j'ai terminé.
Je pense que le président, il a ramassé tout. Je voulais simplement, Rachel qui semblait s'inquiéter, du fait qu'elle a l'impression que parfois nous encourageons, nous les organisations. Mais on a dit tout à l'heure que ni l'UNPC, ni j'aide n'engage des journalistes.
Voilà.
Quand nous organisons une manifestation et que nous invitons des organes de presse, ce sont ceux-là qui nous envoient des journalistes.
Voilà.
Mais la question revient toujours de savoir, en fait, dans ce pays-là, qui est journaliste et qui ne l'est pas. Ça, c'est la question originelle que nous devions commencer par nous poser, nous tous. Vous savez, si je prends simplement une définition qui est dans la loi de 81, on dit, le journaliste, c'est celui dont le travail consiste à collecter, à traiter, à diffuser des informations. Et on ajoute qui tire l'essentiel de sa subsistance de ce travail-là. Je vous assure, on a été dans une réunion, comme vous êtes là-bas, avec cette définition, on a posé la question. Qui est ce journaliste qui vit de son travail de journaliste aujourd'hui? Il n'y avait personne, donc il n'y a pas de journaliste. Conclusion, il n'y a pas de journaliste. Alors si vous ne vivez pas du travail de traitement, de collecte, alors vous vivez de quoi?
La RTNC, la CP vivent.
Donc
de ce
vous vivez du coupage, du chantage, du clientélisme et tout ce que vous voulez. Et donc, nous comprenons cela comme le président a dit, on ne peut pas aujourd'hui, compte tenu de la situation que nous connaissons, dans laquelle vivent les entreprises de presse, et qui a des répercussions sur des journalistes qui n'ont pas de salaire, qui n'ont pas payé, nous ne pouvons pas moralement dire à un journaliste, quand on te tend, par exemple, tu vas laisser ta femme, tes enfants malades, on te donne 20 dollars, il ne faut pas prendre. Ce serait vraiment méchant et cynique, parce que vous ne proposez rien d'autre. Donc c'est un problème éthique et moral. Hein, il y a des gens qui peuvent accepter le coupage parce qu'il est dans le besoin. L'autre peut accepter ça parce que c'est de la corruption. Il faut lire des choses comme ça. Parfois, c'est une forme de corruption. Mais on comprend, pour des besoins de subsistance aujourd'hui, les journalistes sont obligés, comme on a dit, d'aller se faire payer là où ils vont chercher l'information. Vous avez Et vous devez savoir, vous savez quand on parle de moutons noirs et de témétés, mais ils ne sont pas toujours ce que l'on croit. Il existe des moutons noirs et de témétés, mais en col blanc. Et parfois, on peut les trouver chez les patrons, surtout les patrons de presse. Donc, il faut faire très attention avec ça. Ce qu'on essaye de faire au niveau des organisations, comme on a dit, la situation étant celle qu'elle est, c'est de mettre des garde-fous. Et au niveau de la profession, nous avons le code qui interdit justement la corruption, qui interdit de percevoir l'argent en raison du travail que vous êtes en train de faire, de recevoir l'argent. Mais maintenant, c'est un problème éthique et moral. Personne ne peut être derrière tous les journalistes pour dire tu as reçu ou tu n'as pas reçu. Beaucoup de journalistes, nous savons, 80% peut-être, sont appointés dans des entreprises de presse. Chaque mois, ils ont des salaires. Comment voulez-vous que ce journaliste-là soit indépendant par rapport à l'entreprise ou à l'institution qui lui donne un salaire chaque mois, le salaire qu'il n'a pas dans son entreprise de presse? Directement, il devient un peu... il fait le travail de tout le temps, le travail de communication pour celui qui le paye, de la propagande. Et donc, il n'y a plus de communication que d'information dans ce que vous diffusez tous les jours. Donc, ce sont des réalités avec lesquelles il faut faire. Je pense qu'il y a un minimum à préserver. Et quand on parle de la sécurité, c'est cela aussi. Si vous n'êtes pas indépendant de quelqu'un, vous ne pouvez pas être en sécurité. Aujourd'hui, il vous paye, mais demain, si vous ne faites pas le travail pour lequel il vous a payé, il peut vous le faire payer autrement.
Merci à tous les intervenants. Merci à vous, estimés confrères et consoeurs. C'est la fin de ce forum d'expression. J'espère que nous nous retrouverons très prochainement.